Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Belinda Bosuma.
Crise dans l'Est de la RDC, Kigali relance les critiques contre Kinshasa. Devant la presse hier, le président rwandais accuse le gouvernement congolais de refuser d'assumer ses responsabilités, notamment en rejetant les négociations avec le M23. En réponse, Kinshasa renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter. Ituri, plus de 3 millions d'enfants de 6 mois à 14 ans attendus pour le vaccin contre la rougeole et la rubéole. La campagne a été lancée hier à Bunia par l'UNICEF et les autorités provinciales. Téné, depuis début 2025, l'Ituri a enregistré plus de 1400 cas de rougeole. Et puis, l'invité de ce matin, Maître Olivier Ndoole, secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Cette ONG et ses alliés exigent la réparation des méfaits de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert en Ituri et Édouard au Nord Kivu. Pour ce faire, ils ont introduit un contentieux climatique à la Cour de justice de l'EAC. Madame, Messieurs, bonjour. Paul Kagame relance les critiques contre Kinshasa. Le président rwandais a de nouveau pris la parole sur la crise dans l'Est de la RDC. Dans une conférence de presse hier, il accuse Kinshasa de refuser d'assumer ses responsabilités afin de mettre fin au conflit, notamment en rejetant toute négociation avec les rebelles du M23. Vous le savez, selon plusieurs rapports des Nations Unies, ce groupe rebelle bénéficie du soutien de l'armée rwandaise. Des accusations que Kigali nie systématiquement. Interrogé sur la réouverture de l'aéroport de Goma, souhaité par Paris et Kinshasa pour des raisons humanitaires, Kagame a estimé que la question devait être discutée directement avec les rebelles qui contrôlent la ville, dit-il. Paul Kagame dans cet extrait proposé par Poli Mouzalia.
Goma, it's not functional.
L'aéroport de Goma n'est pas opérationnel, mais il est entre les mains de certaines personnes. Je vous dirais d'aller discuter avec ces gens-là si j'étais celui qui contrôle Goma et que vous veniez me dire « je veux utiliser l'aéroport de Goma ». Je dirais « très bien, mais il y a des conditions ». Goma fait partie des problèmes auxquels j'ai fait face avec le gouvernement. Et maintenant que j'ai le contrôle de la ville, je ne vous la rendrai pas tant que vous ne me montrez pas en même temps comment vous comptez résoudre mes problèmes. Eh bien, je peux donner l'impression de parler pour ces gens-là, mais je ne fais que réfléchir. Si j'étais celui qui décide et que vous vouliez reprendre Goma, Kavumu ou Bukavu, ou même tout l'est du Congo, très bien, je n'ai aucun problème avec ça. Cela n'arrivera qu'à condition que vous abordiez mes problèmes. Vous comprenez?
En réponse, Kinshasa renvoie Kigali aux accords signés entre les deux pays et lui rappelle son obligation de les respecter. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a réagi hier aux déclarations de Paul Kagame qui accuse la RDC de refuser d'assumer ses responsabilités. Pour Patrick Muyaya, au contraire, Kagame est le géniteur, le père du groupe rebelle M23. On écoute le porte-parole du gouvernement congolais au micro de Blaise Shindani Kambala.
J'ai reçu la question en réaction avec les propos du président rwandais. Je crois que c'est les pères qui revendiquent les actions du fils. Si vous l'avez suivi, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Nous l'attendons sur le terrain du respect de ses engagements par rapport au processus diplomatique dans lequel nous sommes engagés. Hier, je le disais que nous aurons l'occasion de revenir dans les prochains jours pour faire le point de qui s'est acquitté de ce qu'il devait faire pour que la paix reviennent dans cette partie du territoire et pour que nous puissions permettre à nos populations de vaquer librement à leurs occupations. En parlant de cela, j'ai vu qu'il y avait sur les réseaux sociaux une fausse polémique engagée par les fils, justement, parce que très attentifs à ce que nous disons et dans le strict objectif de s'aimer la division et la confusion. J'aimerais rappeler ici la position du gouvernement du président de la République depuis le premier jour de ce conflit. Chaque Congolais est important, chaque province, chaque territoire, chaque communauté compte. L'unité nationale, c'est le socle qui nous tient et la mobilisation de tous les citoyens que nous faisons quotidiennement est la seule réponse à l'agression.
Direction l'Ituri, je vous l'ai dit dans les titres, plus de 3 millions d'enfants âgés de 6 mois à 14 ans sont attendus pour recevoir le vaccin contre la rougeole et la rubéole. Le lancement officiel de cette campagne qui concerne les 36 zones de santé de la province a eu lieu hier à Bunia. Pour assurer son succès, l'UNICEF, avec les autorités provinciales et les responsables sanitaires, appelle à la mobilisation de toutes les couches de la société afin d'encourager les parents à présenter leurs enfants à la vaccination. Jean-Claude Loki.
Depuis le début de cette année, l'Ituri a enregistré 1434 cas de rougeole avec 2 décès parmi les 48 patients testés positifs. À ce jour, quelques 3 165 000 enfants ont été recensés. Le docteur Jean-Luc Ngouna, chef intérimaire de la division provinciale de la santé, insiste sur la nécessité de recevoir ce vaccin.
La rubéole, qui est une maladie courante et bénigne, qui présente des symptômes similaires à la rougeole et qui, chez les femmes enceintes, peut provoquer des malformations congénitales chez les fœtus, comme la surdité, les maladies du cœur, ainsi de suite.
Pour El Askiri, chef de bureau de l'UNICEF à Bounia, partenaire technique et financier de l'opération, la réussite de cette campagne repose sur l'implication de tous. Elle appelle donc à une forte mobilisation communautaire afin qu'aucun enfant ne soit laissé de côté.
Nous exhortons les leaders d'opinion, les autorités coutumières et les organisations de la société civile. Mobilisez vos communautés et combattez la désinformation. La vaccination est le droit le plus fondamental de votre enfant à une vie saine.
Près de 4600 sites de vaccination ont été aménagés afin de faciliter l'accès des enfants au vaccin. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Du côté de Matadi, au Congo central, les parents sont appelés à faire vacciner les enfants contre la poliomyélite. Hier, des jeunes volontaires de la structure UriPort, soutenus par l'UNICEF, ont organisé une activité de sensibilisation en marge de la campagne de vaccination contre la poliomyélite, campagne lancée le même jour sur toute l'étendue de la province. Objectif, renforcer l'adhésion des familles à la vaccination et contribuer pas à pas à l'éradication de la maladie au Congo central. Nana Plurich Mambo.
Pour les comités nationaux de pilotage du projet UriPort qui organise cette activité en partenariat avec l'UNICEF, à l'heure où la poliomyélite continue de menacer la santé des enfants du Congo central, particulièrement à Matadi où quelques cas ont été signalés, la mobilisation de ces jeunes UriPort apparaît plus que jamais essentielle. Leur engagement sur terrain avant le passage des vaccinateurs, combiné aux efforts du personnel de santé, constitue un levier déterminant pour atteindre chaque famille, renforcer l'adhésion à la vaccination et ainsi contribuer pas à pas à l'éradication durable de la poliomyélite au Congo central. Cette campagne de sensibilisation intervient dans le cadre de la campagne de vaccination dont le lancement a eu lieu ce jeudi à Matadi. Une initiative saluée par plusieurs familles qui accueillent chaleureusement ces jeunes sensibilisateurs.
J'ai vraiment bien aimé la sensibilisation de la part de UriPort pour la vaccination de nos enfants, pour lutter contre les polio.
La mobilisation se poursuit dans l'objectif d'atteindre 924 868 enfants de 0 à 59 mois et de couper la chaîne de transmission dans la province. Avant leur déploiement sur terrain, ces jeunes UriPort ont été dotés d'outils permettant de renforcer les activités de vaccination, notamment à travers une communication interpersonnelle efficace auprès des familles et des communautés. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Notez que dans la province du Congo central, plus de 900 000 enfants âgés de 0 à 59 mois sont ciblés par cette campagne de vaccination. Autre nouvelle, décembre 2025, bientôt 2 ans, depuis que le Centre de coordination des opérations CCO est opérationnel à Bounia en Ituri, installé grâce au partenariat entre les autorités provinciales et la MONUSCO, cet outil stratégique joue toujours un rôle central dans la sécurisation de la ville. Malgré ces défis, les autorités locales saluent les avancées obtenues grâce au CCO et appellent à renforcer cet outil essentiel pour la sécurité des habitants de Bounia. Le point avec Jean-Claude Loki.
Inauguré le 13 décembre 2023, le centre de coordination des opérations a été conçu pour répondre de manière rapide et coordonnée aux incidents sécuritaires à Bounia. Construit et partiellement équipé par la MONUSCO, le CCO dispose de 2 bureaux, d'une salle des opérations ainsi que de 12 lignes téléphoniques reliées à du matériel informatique. Pour son responsable, le major Jean-Claude Mukindi, l'impact de cet outil est avéré.
Il y a eu beaucoup de situations sécuritaires qui perturbaient le fonctionnement, parce qu'il y avait beaucoup de vols, de viols, surtout le meurtre. Vous vous souviendrez qu'il ne passait pas une journée comme ça que vous attendiez plusieurs coups de bas dans la ville de Bounia.
Ce partenariat avec la MONUSCO a permis d'améliorer la capacité de réaction des forces de sécurité. Jean-Tobi Okala, le chef de l'information publique de la mission en Ituri, revient sur l'importance de cet appui.
La MONUSCO fournit, entre autres, du carburant, mais également des rations alimentaires pour les patrouilleurs, en plus d'autres appuis en matériel. Tout cela a permis d'avoir une meilleure protection des populations. populations et de leurs biens.
Mais le centre fait face à plusieurs contraintes. Parmi celles-ci, le manque d'assez d'engins roulants, l'état dégradé de la voirie dans de nombreux quartiers, les perturbations fréquentes du réseau téléphonique ou encore l'absence des rues clairement identifiées, ce qui complique la localisation rapide des lieux d'incident. Bounia, Jean-Claude Louki, Guilé, Radio Okapi.
Pendant ce temps, à Lubumbashi, la police de recherche et d'investigation criminelle a présenté mercredi au commissaire provincial de la police un groupe de présumés criminels. Parmi eux, il y a des multi-récidivistes qui ont été plusieurs fois arrêtés puis relâchés. Détail avec Paulin Munanga.
Ces présumés criminels sont regroupés en trois bandes. La première est la bande de Kadima, constituée de multirécidivistes. D'après la police, ces personnes ont semé la terreur et la désolation dans les quartiers Ewabora, Kadastre, Kabecha et Congo dans la commune Ruachi et Kampemba. Elles sont accusées de viols collectifs, vols avec violence à l'aide des machettes. La seconde bande est celle de Kasongela. La police annonce que ces gens opèrent dans les quartiers Kalibuka, Kinkaville, Taba Congo et Bel Air dans la commune annexe et Kampemba à Lubumbashi. Cette bande s'est spécialisée dans les vols des motos et les cambriolages des maisons. Quant à la troisième bande, elle est accusée du meurtre d'un agent de l'ANR au quartier Kilobelobé dans la commune annexe. La police précise que les membres de cette bande sont impliqués dans le vol de 6 véhicules, dont 3 ont été restitués à leurs propriétaires. Le commissaire provincial de la police du Haut-Katanga réitère son appel à la population de faire confiance à la police et de dénoncer tout cas suspect. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Province du Olomami, le bureau de l'Assemblée provinciale affiche complet ce après le vote hier à Kamina du nouveau président et du questeur. Le ticket gagnant de l'Union sacrée a été constitué des candidats uniques à chaque poste. Le nouveau président de l'Assemblée provinciale du Olomami s'appelle Jean Tayari et le questeur c'est Idriss Nsenga. Le secrétaire exécutif de l'Union sacrée dans le Olomami, Fiston Niembo, revient sur ce vote. Ses propos sont recueillis par Paulin Munanga.
Dans notre province, nous avons connu les cas de déchéance des deux membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Basile Mouleba, et le questeur de l'Assemblée provinciale, l'honorable Moukaya Moana Serafin, ils ont été déchus par un seul grief, détournement des amoliments appropriés pour leurs collègues députés. Pour ce faire, il fallait à tout prix qu'on puisse compléter les vides pour faire refléter que le bureau doit être légitime. Et selon ce qu'exige le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Comme tous deux étaient tickets de l'Union sacrée a aligné ses candidats potentiels. Tous nos deux candidats uniques potentiels alignés par l'Union sacrée venaient d'être élus par leurs collègues députés. La matière qui était prévue était épuisée. On s'était retrouvé qu'au lieu de 3 députés ou 4 députés, il n'y a eu que 2 seulement. Alors, la matière était épuisée. C'est ainsi qu'on a dit, bon, au lieu de projeter encore les histoires à demain, ils ont vraiment bon jugé qu'il y ait cette motion incidentielle pour permettre à ce que les votes se passent normalement aujourd'hui.
Dans l'actualité aussi, moins de 15% des véhicules ont été soumis au contrôle technique au centre de formation et de contrôle technique automobile de l'INPP à Kinshasa. Ce bilan livré par le directeur adjoint de l'INPP intervient une semaine après le lancement par les autorités de l'opération de vérification des documents de contrôle technique dans les rues de la capitale. Selon Aaron Miziamo, ce chiffre reste dérisoire au regard du nombre de véhicules enregistrés dans la ville de Kinshasa. Détail avec Josué Kefebe.
D'un côté, les agents du centre de formation et de contrôle technique automobile de l'INPP sont à l'œuvre. De l'autre, les chauffeurs patientent en attendant les rapports d'inspection de leurs véhicules. Aaron Miziamo, le directeur adjoint du centre, a dressé un premier bilan une semaine après le lancement de cette campagne.
Quand les autorités ont lancé le contrôle sur terrain, nous avons commencé à enregistrer plus de 200 véhicules le jour. Maintenant, nous avons au moins 100 véhicules par jour. En ce qui concerne les charrois automobiles de la ville-province de Kinshasa, on est en dessous même de 15%.
Par ailleurs, Aaron Miziamo a formellement contesté les allégations de corruption diffusées dans des vidéos sur les réseaux sociaux. Ces publications accusent justement les CFCTA d'avoir validé le contrôle d'un véhicule Mercedes-Benz des 107, pourtant en mauvais état.
Nous, on a reçu les véhicules, mais à la fin, on a constaté qu'il y avait des défaillances qu'on devrait normalement remplacer. On a fait notre rapport, mais les gens, comme on n'a pas compris cela, ils ont tout simplement filmé sans pour autant voir les rapports finaux des contrôles techniques automobiles.
Il est à noter que les opérations de contrôle technique se poursuivent à travers Kinshasa.
Actualité internationale.
Le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, renversé mercredi lors d'un coup d'État par des militaires, est arrivé sain et sauf au Sénégal hier jeudi à bord d'un avion affrété par le Sénégal, annonce faite par le ministère des Affaires étrangères sénégalais dans un communiqué. Cette annonce intervient quelques heures après que le général Ortan Tam, qui était jusqu'ici chef d'état-major de l'armée de terre en Guinée-Bissau, a été investi président de la transition et du haut commandement militaire pour diriger la Guinée-Bissau.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le secrétaire exécutif de l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, Maître Olivier Ndole, nous parle du contentieux climatique introduit par son organisation et ses alliés à la Cour de justice de l'EAC contre la RDC, l'Ouganda et le secrétariat général de l'EAC. C'est dans le cadre de la campagne Notre Terre sans pétrole. La coalition exige la réparation des méfaits de l'exploitation du pétrole dans les lacs Albert en Ituri et Édouard au Nord Kivu. Maître Olivier Ndole s'entretient à ce sujet avec Bernardin Nyangui.
Maître Olivier Ndole, bonjour. Pour commencer, dites-nous d'abord, qu'est-ce qui justifierait votre contentieux introduit à la division de première instance de la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est?
Comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait partie membre de East Africa, comme l'Ouganda et bien d'autres États. Et à cette Cour, que ce soit l'ACDH qui est une organisation qui a une résidence au niveau de l'un des États, donc la compétence est là, et même les autres acteurs aussi en font partie. Et donc, c'est un droit reconnu à tout citoyen, donc, de saisir le mécanisme en termes de contentieux climatique dans notre droit positif interne, comme au niveau communautaire, au niveau, si vous voulez, de la charte de l'EAC, c'est reconnu. Et aussi, l'autre aspect, c'est qu'il y a des faits qui ont été certifiés par un rapport d'experts qui attestent réellement que certains effets liés à la production de pêche, mais aussi sur la pollution et bien d'autres, les éléments qui sont déjà consignés dans un rapport d'experts sont liés à l'exploitation du pétrole du côté de l'Ouganda. Et par rapport à la sauvegarde sociale et environnementale, le fait qu'il n'y a pas non seulement une étude d'impact environnemental qui couvre les aspects transfrontalières susceptibles d'impacter la RDC, mais aussi il n'y a jamais eu de consultation des communautés congolaises. Tous ces éléments constituent des motifs judiciaires pour aller réclamer des réparations sur le plan judiciaire au niveau de la sous-région, donc aider les communautés à recouvrer leurs droits.
Et votre plante cible à la fois la RDC, l'Ouganda et le secrétariat général de l'EAC. Pourquoi?
Comme vous le savez, la RDC étant notre État devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger non seulement nos communautés, mais aussi protéger nos écosystèmes. Comme vous le savez, cette partie-là du rift albertain, vous avez les lacs Albert qui constituent une assiette en termes de moyens de subsistance essentiels, mais aussi en termes de contributions sur les plans climatiques importantes, avec une forêt, une connexité jusqu'au niveau du lac Édouard avec les parcs nationaux de Virunga, une biodiversité exceptionnelle, sur base des engagements sur les questions climatiques, y compris même la réduction de l'utilisation des énergies fossiles, la RDC devrait réclamer la protection pour ses communautés, mais aussi exiger toutes ces études prenant en compte des mesures de mitigation du côté de la RDC, tenant compte que ces projets s'exercent dans une zone transfrontalière. Et donc, la RDC est responsable de par son omission. L'Ouganda, c'est l'État où s'exerce cette exploitation et qui n'a pas non seulement consulté, qui n'a pas fait participer et qui n'a pas aussi mené cette étude d'impact environnemental avec des aspects transfrontaliers. Et donc, ces projets qui sont en train d'être exercés au niveau de Toulenga comme Kingfish sont des projets illégaux et qu'il faudra donc suspendre. C'est pour cette raison que l'Ouganda et la RDC sont mis devant la barre pour ce genre de responsabilité. Mais aussi l'autre aspect, c'est la communauté de l'Afrique de l'Est qui, dans son charte, il est dit que toute ressource qui est transfrontalière, avant toute exploitation, il faut des consultations, mais aussi des assises qui devront définir la participation, consultation, mais aussi prendre des mesures nécessaires pour protéger non seulement les écosystèmes, mais aussi protéger les droits des communautés locales. Et dans les cas d'espèces, on a constaté septembre 2025 ces dégâts, et légalement, il faut constater que la communauté n'a pas pris les mesures nécessaires pour se rassurer que les États sont en train de respecter la charte à ce qui concerne les questions environnementales pour les droits des communautés locales. Et donc, le secrétaire général devrait aussi comparaître.
La plainte est déjà enregistrée par la Cour de justice de l'EAC. Qu'est-ce qui pourrait suivre, d'après vous, après, et à quoi vous vous attendez exactement de cette action judiciaire?
Ce qui pourra suivre, c'est l'instruction du dossier. La référence a été déjà signifiée, communiquer régulièrement à l'État congolais, à l'État ougandais et au secrétariat général de l'EAC. Donc, le secrétariat donc pourra répondre aux objections soulevées, amener des contributions en termes d'amélioration de sauvegarde sociale par rapport à ces litiges.
Monsieur Olivier Ndole, merci.
Notre invité répondait aux questions de Bernard Denyangi. Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.